Là, je m'excuse parce que j'étais vraiment comme...
Fait que...
J'étais vraiment impulsive.
C'est correct, ça fait partie de la game.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 6, le petit guide 101 de la neuroinclusion, partie 2, avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Delhomme et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Bonjour et bienvenue, cher public des neurodivertissantes, fidèle au poste, 6e épisode si je ne me trompe pas. Je valide dans le regard de Mélissa et Solène que tout va bien.
Ça ressemble à ça, oui.
6e épisode, mais partie 2, parce que la semaine passée, si vous vous rappelez bien, j'ai fait ma germaine du temps et interrompu brusquement mes co-animatrices. Alors...
Scandale.
Qu'on parlait de scandale. Mon équipe au travail vous dirait que je suis vraiment une germaine du temps. Je suis rendue très forte pour dire yo, on se ramène.
J'ai tellement eu un flashback de Love Story, genre avec Choutroy.
Oh mon dieu, je n'ai pas écouté Love Story.
Moi non plus, mais je me rappelle juste qu'il y a quelqu'un qui disait ça, puis ça avait fait, c'était viral, Choutroy.
Ben oui, on n'avait pas aussi un homme politique là avec son je suis outré pendant un temps qui était un meme au Québec.
Ça me dit rien. Mais c'est bon. Pas tellement de référence.
Les criquets ouais. Me font dire que non, mais mon copain sait de quoi je parle, OK? Je ne suis pas seule sur ma planète.
Parfait, je me rappelle plus des mimes de Love Story que de politique, fait que c'est honteux.
C'est correct, chacun ses forces. Revenons! Donc, j'avais fait la germaine du temps et interrompu Mélissa alors qu'elle nous parlait... Attendez, petit récapitulatif. On parlait de l'application de la neuroinclusion au travail. On devait couvrir 5 grands concepts dans l'épisode 1. Finalement,
six.
On était folle ben raide.
6.
Folle ben raide de croire qu'on faisait ça en un seul épisode. On a couvert le 1, l'environnement, et on avait amorcé le 2, les processus. Et on s'était laissé un petit peu sur la formation comme processus. Et l'experte Kim Mélissa allait nous parler des meilleures pratiques là, au niveau de la formation. Donc, Mélissa, je te renvoie la balle.
Oui, mais merci. Puis, tu sais quoi, tu sais... Comme toute bonne chose, des fois, le fait de laisser maturer quelque chose dans son cerveau peut donner d'excellents résultats, puis le fait d'en parler, puis justement, j'ai participé avec quelqu'un à la rédaction d'un article sur les meilleures façons d'inclure la neurodiversité dans la formation. Fait que j'arrive aujourd'hui avec plein de constats ultra intéressants à partager avec vous, puis un de ces constats étant aussi que si la demande est là, peut-être que ça pourrait faire un épisode en soi, parce que c'est dur d'effleurer la formation, puis il y a plein de façons de s'assurer qu'on inclut tout le monde en formation. Tu sais, par exemple, on va parler des normes d'accessibilité web pour tout ce qui est justement le contraste des couleurs, puis s'assurer que les personnes qui ont des difficultés au niveau visuel puissent bien écouter, s'assurer au niveau des normes de transcription pour les personnes qui sont malentendantes. Puis ça, c'est des choses qui vont s'appliquer à la neurodiversité, là, tu sais, de se dire, bon, ben, si quelqu'un est dyslexique, ben, peut-être que si ta formation est entièrement à l'écrit, ça risque d'être plus difficile. Fait qu'il y aurait plein de façons de dire, ultimement, oui, il faut adapter la formation pour la neurodiversité de telle façon, mais, prime abord, le constat est que la formation, de façon générale, est très mal montée. fait que c'est ça, le constat étant que la formation est très mal montée de façon générale, j'ai bien beau vouloir mettre de l'avant plein de façons d'améliorer puis de rendre ça plus inclusif. Rendre quelque chose de mauvais inclusif, ça reste que c'est quelque chose de mauvais.
Pour vrai?
Puis là, hey, je sais que je suis vraiment harsh, là, mais...
Non, mais j'aime ça, puis là, ça me fait penser au fait que des fois, j'affectionne particulièrement des très mauvais films, puis là, je me demande s'il y a de la mauvaise formation que j'apprécie. Je pense pas.
Probablement pas, tu sais. Formation série B, it's not a thing.
C'est comme pas de charme au mauvais jeu d'acteur.
Mais bon, tant qu'être vraiment harsh sur le sujet, je vais m'exprimer par rapport à ça. Donc,
garde-toi.
J'ai appris le métier de concepteur pédagogique. C'est un métier que j'affectionne et que je respecte énormément, mais reste que le métier de concepteur pédagogique ne s'apprend pas à l'école. Il va y avoir des maîtrises sur le sujet qui se donnent, mais au niveau maîtrise, généralement, les personnes qui vont faire la maîtrise, c'est pour aller toucher les aspects beaucoup plus stratégie, les parcours de formation, de tout ce qui est plus à haut niveau. Mais reste que la conception pédagogique pourrait être au premier cycle universitaire ou même il pourrait avoir une partie du métier qui s'apprendrait au niveau technique au cégep, puis ça ferait qu'on aurait un bassin de personnes compétentes en conception pédagogique sur le marché beaucoup plus grand que ce qui est actuellement disponible. Fait que généralement, en entreprise, toutes les formations que tu vas suivre vont être écrites, évidemment, par quelqu'un. Là, je vous apprends rien. Là, ça se fait pas tout seul dans les airs. Mais ça se fait généralement sur le coin d'une table, par contre. Fait que, fait que les gens vont faire la conception pédagogique au mieux de leurs connaissances, puis au mieux de ce qu'ils pensent que ça devrait avoir de l'air. Puis généralement, ça ne va pas respecter les meilleures normes de conception. Puis ça fait que, justement, si on décide de parler d'inclusivité, ben prime abord, si ta structure pédagogique, elle n'est pas bien montée, si tes stratégies pédagogiques ne sont pas en lien avec le contenu que tu veux couvrir, puis si tes objectifs pédagogiques ne sont pas en lien avec tes évaluations, puis ce que tu as besoin de transférer dans la tâche, ben tu passes à côté de la traque. Fait que, par rapport à ça, ce que je voulais juste dire, puis comme je vous dis, c'est assez complexe comme sujet finalement, fait que je pense que ça pourrait faire partie d'un autre épisode. Donc, de se dire qu'en termes d'inclusion, le fait de, par exemple, s'assurer qu'on respecte les bonnes pratiques de gestion des canaux. Fait qu'au dernier épisode, on se disait que avoir de l'audio en même temps que du visuel, donc du texte écrit, c'était pas une bonne pratique parce que le cerveau va lire plus vite que ce qu'il entend, que tu sois neurodivergent ou pas. Fait que ça crée une interférence des signaux là, dans le cerveau. Fait que ça crée une charge cognitive inadéquate pour pouvoir absorber le contenu. Fait que si tu veux avoir quelque chose d'inclusif pour tous, ben ça va être de gérer tes canaux de façon équilibrée. Fait que si, par exemple, tu as de l'audio, ben tu vas supporter avec un visuel qui n'est pas du texte. Si, par exemple, tu n'as pas d'audio, ben tu vas t'assurer que ton texte puis tes infographiques vont être conçus de façon ergonomique pour l'œil puis pour comprendre le lien entre tes informations. Puis déjà, juste en faisant ça, tu vas t'assurer que ta personne neurotypique va mieux comprendre le contenu puis que ta personne neurodivergente, elle n'aura pas à rajouter une charge supplémentaire dans la compréhension de ton contenu. Tout ça pour dire que finalement, si vous voulez vous assurer que votre formation soit dans un premier temps accessible à tous, assurez-vous de suivre les meilleurs normes pédagogiques. Puis si vous ne les connaissez pas, il y a plein de livres super intéressants sur le sujet. Puis il y a des firmes très spécialisées, dont celle pour laquelle je travaillais, qui peut aider, qui peut coacher, qui peut accompagner. Fait que c'était ma parenthèse là-dessus, puis on pourra refaire un autre épisode peut-être.
J'accepte, je t'embauche.
Merci, mais j'en fais plus de la formation.
Non, mais tu vas pouvoir nous en parler.
Oui, je peux en parler.
Ça n'enlève point ton expertise. Excellent, mais merci beaucoup Mélissa pour ce point sur le processus de la formation de Voix Inclusive. Sur ça, un autre processus qu'on voulait discuter avec vous, c'était les processus d'évaluation, évaluation de la performance, du rendement, à la contribution, etc. Et donc des forces. Est-ce que vous aviez un point à exprimer là-dessus sur comment on peut le mettre en pratique de manière neuro-inclusive, mesdames?
Bien, dans mon cas, je pense que ce que j'avais fait dans mon ancienne vie, puis ce qui se fait beaucoup là, en neurodiversité, puis ce qu'on va mettre de l'avant, c'est de travailler en fonction des profils de force, travailler autour des forces, donc plus en fonction des principes de la psychologie positive. Fait que, tu sais, l'évaluation de la performance / évaluation des compétences devrait se faire autour des forces de la personne.
Non, t'aurais pas dû te laisser interrompre. C'était une impulsivité. J'allais juste dire, j'aime vraiment beaucoup le concept d'ancienne vie, parce que moi, j'ai beaucoup d'ancienne vie, il me semble, dans ma tête. J'ai beaucoup d'imaginaires, puis là, je m'excuse, parce que je t'ai vraiment interrompue.
Non, c'est correct. Fait que...
J'étais vraiment impulsive.
C'est correct, ça fait partie de la game. Donc, dans mon ancienne vie, la numéro 5 de mes 9 vies de chat.
Non, voilà.
C'est moi, Catwoman, disclaimer.
Excusez-moi. Bon, c'est moi.
C'est toi, oui. Sinon, je serais allergique à mes collègues chats, à moi-même. fait que bref, oui, c'est ça, travailler autour des forces de la personne. Fait que moi, en coaching, c'est ce que je fais dans mon ancienne vie, quand j'étais responsable du développement organisationnel, c'est aussi ce que je faisais. Fait que d'aller trouver c'est quoi les forces de la personne, où est-ce qu'elle veut aller, puis comment est-ce qu'elle veut les développer. Puis en même temps aussi, dans l'organisation, de quelle façon est-ce qu'on peut repartager ces forces-là. Fait que je pense que dans le cas de personnes neurodivergentes, où on parlait justement des profils de force qui sont assez hétérogènes, puis avec des forces très, très élevées dans plusieurs des cas, bien, le fait de pouvoir alimenter l'intelligence collective d'une organisation avec des profils neurodivergents, ça laisse sa place, mais encore là, ça prend un environnement de travail qui soit sécuritaire psychologiquement, de pouvoir se dire que tu sais, tout le monde peut partager, puis tout le monde peut contribuer à ça. Puis justement, tu sais, par rapport à ça, ce que je trouvais intéressant dans justement les façons d'évaluer les personnes puis de retransmettre leur savoir. Franck, tu avais participé à un webinaire, je pense, sur le mentorat neurodivergent, puis je trouvais que c'était tellement intéressant, là.
Ben oui, c'était pas exactement sur le mentorat neurodivergent, mais c'était vraiment sur le mentorat comme stratégie d'inclusion. Puis moi, ça avait suscité énormément de réflexions ultra comme intéressantes dans ma tête parce que je me disais, quand le mentorat est fait, souvent il est fait de manière très traditionnelle, donc la personne d'expérience qui enseigne à un nouveau, mais il existe aussi le format du mentorat inversé où là, on a par exemple une plus jeune génération qui va être le mentor d'une génération au-dessus, ou tu sais, qui a plus d'expérience, puis là, qui va amener son nouveau regard. Puis je me disais, en neurodiversité, ça serait tellement intéressant d'avoir des personnes neurodivergentes qui peuvent être les mentors de personnes neurotypiques, ne serait-ce que pour transmettre cette vision ou cette différence de vision, justement, puis aller explorer comment on peut évoluer autant la personne neurotypique par rapport à la non-inclusion, mais que la personne neurodivergente dans un monde neurotypique. Donc, le mentorat, je trouve, ça ouvre le dialogue puis ça met les gens en posture d'écoute, de bienveillance et donc de grands principes inclusifs tant qu'à moi.
Mais il faut faire attention, par exemple, que là, on s'attende pas à ça, qu'on n'exige pas ça de la personne neurodivergente parce que c'est très lourd et c'est très prenant d'être des apôtres de ce qu'est la neurodivergence. On n'est pas tenu et obligé d'expliquer notre vécu et de divulguer comment on fonctionne. Il y a des gens qui s'intéressent, genre nous trois, mais il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout et qui n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie, puis il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent non plus.
C'est un excellent point, Céline, parce qu'effectivement, ça ressort souvent dans les études, on va s'attendre à une personne neurodivergente qu'elle soit un peu le porte-parole de sa communauté, puis c'est énormément de pression. Puis ça m'amène à clarifier mon point qui était que dans un mentorat inversé avec des personnes neurodivergentes, neurotypiques, ça ne porterait pas nécessairement sur la neurodivergence, mais plutôt sur le travail et d'aller explorer comment on interprète notre réalité du travail différemment selon nos vécus, sans aller dans la justification, l'enseignement ou la sensibilisation nécessairement, et bien sûr, toujours sur base volontaire. Je trouve ça très important là, parce que le mentorat comme stratégie d'inclusion, c'est génial, mais si c'est imposé, ça perd beaucoup de cette posture d'écoute, de bienveillance et de disponibilité dont je parlais il y a quelques minutes.
Effectivement.
C'est ça, le but, c'est juste d'ouvrir la curiosité par rapport aux différences des personnes puis de voir comment elles s'expriment dans le travail sans nécessairement avoir tout le back-office de comment ça se passe vraiment dans le cerveau de la personne, tu sais. Mais justement, par rapport à ça, tu sais, de dire, bon, ben la façon de faire participer la personne selon ses forces dans l'organisation, ça, c'en était une que je trouvais qui était super intéressante quand on s'en était parlé. Mais reste que, bon, l'évaluation des compétences puis l'évaluation des performances peut avoir certains effets pervers de par la façon dont ils sont menés généralement en organisation, que tu sois neurodivergent ou pas. Par exemple, tu sais, de se dire qu'une fois par année, on va faire une évaluation de la performance puis que, à ce moment-là, d'un, pour le gestionnaire, c'est extrêmement taxant en termes d'énergie puis de stress, là, parce qu'on s'entend, il n'y a personne qui aime ça, là, dire les quatre vérités à son employé. Puis souvent, les gens vont ne pas bien le faire ou ne pas le faire point. Là, ils vont juste tourner les coins ronds puis dire quelques morceaux. Mais en même temps, de ramener une année de temps dans une rencontre d'une heure avec une personne, c'est zéro productif pour personne. Donc, moi, ma philosophie dans tout ça, puis comme je dis, c'est ma philosophie à moi, c'est de dire, bon, ben on va avoir un plan de développement des compétences qu'on va faire annuellement avec un suivi peut-être au 6 mois ou trimestre de dire, bon, ben voici les forces de la personne, voici ce que tu veux développer, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver, puis de faire un suivi pendant l'année sur c'est quoi les choses qui ont été mises de l'avant pour les réaliser. Puis après ça, quand on parle de performance, pour moi, c'est quelque chose qui devrait se faire continuellement. Quand il y a des écarts de performance ou quand il y a une performance supérieure qui est rendue, ça devrait être souligné au moment où ça se produit. Fait qu'à ce moment-là, de dire que dans une ouverture puis une collaboration de neurodiversité, mais tu sais, le gestionnaire devrait être en mesure de faire du feedback qui soit constructif à ses employés. Puis si quelqu'un est neurodivergent dans son équipe puis qu'il y a des défis, bien d'être là pour l'accompagner puis de voir, bon, bien, est-ce que ces défis-là peuvent être palliés en fonction de tes forces ou est-ce qu'il faut réaménager le poste pour te donner accès à tes forces. Fait que c'était mon aparté là-dessus. Ouais.
Oui, puis il y a tellement de choses que j'ai envie de dire, puis je vais essayer de rappeler le point de l'évaluation, mais c'est ça, dans Il y a l'évaluation comme artefact, là, vraiment annuel, qui d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, est vraiment pas assez fréquent. Mais il y a toute la notion d'accompagnement au quotidien ou sur le continu, puis la notion de rétroaction. Mm-hmm. Je sais qu'on voit souvent la méthode sandwich, je te dis un bon truc, un moins bon truc, un bon truc. Puis ça, c'est bien beaucoup plus pour nous rassurer, nous, en tant que personne qui donne de la rétroaction, que pour être efficace, parce que c'était démontré dans plusieurs écrits que les gens ressortent plus confus qu'autre chose, ou vont avoir, avec l'effet de récence, vont retenir le dernier, ou vont pas nécessairement être au clair sur c'est quoi qu'on attend d'eux. Donc, nécessairement, je crois que pour être plus neuro-inclusif, il faut donner de la rétroaction constructive et positive de manière scindée, de manière continue dans le temps, qui est l'évaluation de rendement, tu sais, bon, de manière régularisée dans le temps. Et je crois qu'il y a la partie de atteinte des attentes, mais il y a la partie aussi d'ouvrir vers comment aller vers plus dans ton potentiel. C'est ça aussi qui est intéressant dans la neuro-inclusion, c'est d'accéder à je suis pas juste pas insatisfait, je suis satisfait, j'augmente vers l'accomplissement puis me sentir avec bien-être, qualité de vie au travail, sens au travail.
C'est ça.
J'ai une anecdote. Oui, oui, c'est à mon tour.
Hey! C'est pas juste moi l'anecdotrice en chef.
Oui, je vole ton rôle, mais j'ai déjà été évaluée comme quoi j'étais pas bonne en travail d'équipe, puis c'était avant mon diagnostic, mais quand même. Donc, ça me fait penser que parfois, faut réviser nos attentes envers les neurodivergents. Parce que bon, c'est sûr que je suis pas bonne en travail d'équipe. Je suis meilleure maintenant. J'ai à travailler là-dessus. Mais quand même, faut faire attention aux attentes parce que c'est sûr qu'une personne autiste, par exemple, va avoir des difficultés à s'entendre avec les gens autour d'elle ou enfin à créer des liens. Puis ça va être parfois problématique. Pas forcément, mais parfois. Puis il y a aussi la question des biais cognitifs. Dans la mesure où on va évaluer la personne en fonction de nos attentes, de ce qu'on perçoit comme étant un bon employé, mais parfois ce n'est pas exact ou enfin c'est biaisé, puis ça va causer des problématiques, donc que ce soit envers les neurodivergents ou envers les neurotypiques d'ailleurs.
Mon cerveau explose cela avec ce que tu dis, il y a juste tellement d'affaires que je veux répondre aussi.
Le pouvoir des anecdotes.
Hey, mon Dieu. Mais oui, mais il y a la notion, comme on disait, du bon joueur d'équipe, par exemple, qui est souvent l'employé valorisé. Puis là, la personne neurodivergente ne sera pas nécessairement un joueur d'équipe, quote unquote, que je fais dans les airs puis vous ne voyez pas. Mais que, dans le fond, l'image du bon employé, des fois, est très neurotypique. Et là, l'image du mauvais employé va avec les clichés sensationnaliser, médiatiser qu'on a de la neurodivergence. Donc, par exemple, c'est ça, cette personne autiste qui parle à personne, qui a des stéréotypies, donc des gestes répétés de manière envahissante, qui est sèche au contact, alors que c'est tellement un préjugé. Fait qu'il y avait ça que j'avais envie de répliquer. Puis, il y avait l'autre morceau de réviser les attentes. Ben oui, il faut que ce soit individualisé. Moi, là, des attentes, là... Tu sais, l'âge qui veulent rien dire, comme développer ton sens de l'organisation, là, c'est tellement abstrait. Il faut partir de la personne, il faut établir des objectifs SMART. Puis oui, j'arrive de la psychoéducation et donc de respecter les forces adaptatives puis les défis, mais il faut offrir les opportunités pour le faire. À un moment donné, ça ne peut pas que reposer sur la personne. C'est pas juste à la personne de partir avec « je dois développer mon sens de l'organisation », mais aucun moyen mis en place pour ça, là.
Oui, puis d'ailleurs, on mentionnera à ce moment-ci que il est important pour l'employeur de fournir des outils et des stratégies pour améliorer l'individu. Ça repose pas uniquement sur les épaules de l'employé, ça repose également sur les épaules de l'employeur. Si tu reproches, enfin, si tu nommes un défi envers un de tes employés, mais c'est de ta responsabilité également de lui fournir des outils puis des stratégies pour s'améliorer de ce point de vue-là, en fournissant des objectifs SMART.
Oui, vous allez nous entendre le dire souvent, mais l'inclusion, c'est un processus réciproque de co-responsabilité. Ce n'est pas une excuse pour qu'un individu n'ait pas à s'adapter. L'environnement doit offrir des opportunités et diminuer les obstacles, puis l'individu arrive aussi avec une notion de « je dois être dans le vivre ensemble ».
Oui,
oui. Oui, puis c'est pas juste pour les neurodivergents, là, c'est pour tout le monde, cette stratégie-là.
C'est ça, c'est vraiment pour tout le monde, puis tu sais, j'apporterais peut-être deux points par rapport à ça. De un, tu sais, je veux dire, ça fait quoi... presque 3 mois qu'on collabore ensemble, puis ça, je trouve que t'es une excellente joueuse d'équipe.
Oui.
Merci, merci.
Confirmé.
Mais le pire, c'est que je l'étais, c'est juste que je participais pas sur l'heure du dîner, puis je tu sais, si on me disait pas qu'on avait besoin de mon aide, ben j'allais pas forcément au-devant parce que je le voyais pas que la personne avait la difficulté, donc c'était juste un problème de communication au final.
Bref. Ouais, ben c'est souvent ça, puis je me pose la question, tu sais, tout bonnement comme ça... À quel point est-ce que, justement, certains comportements qui peuvent être perçus comme négatifs de la part d'un employé qui est neurodivergent pourrait être associé au fait qu'il masque puis qu'il vit beaucoup d'anxiété dans la façon dont il interagit avec les gens parce qu'il ne sait pas comment s'adapter aux codes sociaux puis que ça devient, tu sais, plus maladroit qu'autre chose. Tu sais, il y a cette notion-là aussi dans ce filet de sécurité psychologique-là de dire, tu sais, si je sais que je peux être moi-même puis que je sais qu'en termes de co-responsabilité, on peut se dire des vraies choses en tout respect, en toute curiosité puis en toute empathie, mais ça rouvre la porte à être moins stressé puis à plus participer. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, l'approche par psychologie, de la psychologie positive puis l'approche par force, tu sais, le fait de justement miser sur les forces des personnes, ça va amener les gens à vouloir montrer le meilleur d'eux-mêmes. Mais dans la co-responsabilité, le point aussi que je voulais apporter, c'est cette culture de feedback-là. Parce que là, tantôt, quand tu m'as parlé de la sandwich, là...
Juste, je t'interromps un instant, j'ai tellement vu ton cerveau, là, je voyais tous les points qui se connectaient puis tout ce que tu voulais dire en même temps. Il y a du trafic en ce moment.
Ah oui, la bande passante, écoute, moi, je suis sur du fibre dans ma tête, là.
C'est excellent!
Fait que... Puis je m'excuse, j'espère que vous me suivez, là, j'étais partie sur une chaise, clairement, là, je regardais même plus dans la caméra, là, j'étais comme dans mon monde.
Feedback, on en était au feedback!
Mais la culture de feedback, c'est très important. Puis quand tu parlais tantôt de ta sandwich de feedback, là, moi, by the way, j'adore le livre « Chercheur d'or » de Guillaume Duluth, puis comment il parle.
Ah oui! Moi, je suis jalouse de son talent de rédacteur.
Ah, écoute, c'est du bonbon, ce livre. Puis quand il parle des trucs de communication, comment on le sait que c'est un Moses de trucs, puis ton cerveau va percevoir une menace, là?
Bien, je veux juste rebondir pour dire, je pense qu'on va devoir éventuellement se partir dans un club de lecture des neurodivertissantes ou au moins une liste de suggestions quelque part.
Ah, vraiment? Vraiment, moi, j'aimerais ça au bout, là. Puis on en avait parlé, là, peut-être... Eh bien, tu sais quoi? Chère communauté d'auditoires neurodivergents, neurodivertissants, vous autres, là, qui écoutez, là, ça vous tenterait-tu d'avoir un club de lecture puis de dire, bon, ben à chaque, peut-être, trimestre, on sélectionne un livre, on fait un groupe, puis on lit, puis on passe au travers ensemble, puis on en discute. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben on vous lance la POC, même si la saison de hockey est finie. Ça va vous occuper pendant qu'il n'y a pas de game.
Ça pourrait être juste aussi qu'on vous donne une liste de lectures puis qu'on se partage des titres de livres qui seraient bons parce qu'on n'est pas au courant de tous les livres qu'il y a à lire. Donc...
Je pensais qu'ils étaient tous dans ta bibliothèque, Salane.
Malheureusement pas, j'y travaille.
Anecdote, parce que ça faisait longtemps, tu sais, j'ai deux espèces de rêves d'enfance qu'un jour j'espère faire. Je pense que j'aimerais vraiment faire de la fauconnerie un jour dans ma vie, mais je pense aussi que j'aimerais vraiment pouvoir avoir une salle bibliothèque comme dans La Belle et la Bête.
Oh! Tellement!
Moi aussi!
Oui, mais j'y travaille, moi. J'ai quand même des bibliothèques assez conséquentes.
Fait que... chanceuse.
Non, mais t'as-tu une échelle?
Oui, il manque l'échelle, mais ça s'en vient. J'y travaille.
Moi, t'as acheté un escabeau en attendant.
Si, je nous ramène sur la main quest, hein, notre quête principale, oui, parce que là, on s'est un peu aventuré comme dans The Witcher sur des quêtes secondaires. Là.
Oui.
Mais...
fait que oui, j'étais en train de parler de culture du feedback, puis c'était un point qui, pour moi, est super important, puis ça fait partie des bases du coaching, tu sais, de se dire que le feedback est essentiel au développement de la personne. Puis quand on fait de l'évaluation de performance, c'est un moment de donner du feedback. Mais le feedback est toujours reçu comme une menace par la personne, veut pas. Puis ce que je voulais apporter, puis c'est qui n'est pas nécessairement en lien avec la neurodiversité, mais qui va être extrêmement aidant pour ce filet de sécurité psychologique-là. J'ai l'impression que je l'ai dit 40 fois, filet de sécurité psychologique, mais c'est tellement important. Tu sais, la culture de feedback, c'est de dire, OK, on va switcher ça de bord, puis on va avoir le réflexe de demander un feedback. Quand la personne demande un feedback, elle se met en position d'accueil automatiquement, puis elle ne va pas percevoir comme une menace. Puis la personne qui donne le feedback va se sentir accueillie dans le fait de pouvoir donner... en toute bienveillance, en communication non-verbale, ce qu'elle observe, puis de pouvoir bâtir là-dessus. Fait que d'avoir une communication autour du feedback qui est inversée dans vos évaluations de performance, que la personne demande une rétroaction peut avoir des effets très bénéfiques dans cette co-création-là de la carrière de la personne neurodivergente. Là.
C'est d'excellents points, ouais, vraiment. Je suis en train de me dire, en voyant le temps qui passe, que cet épisode va s'appeler « Partie 2 ». Processus, fin des processus et prochain point qui est la communication. Puis le prochain sera partie 3.
Ouais. Oui, hein, parce qu'on passe pas au travers des 6.
C'est ça, je pense qu'il faut arrêter de le voir en partie. Puis je pense que chaque grand concept de la neuroinclusion, grand aspect de la neuroinclusion va être un épisode en soi.
Genre partie 2 de plein, là.
Genre partie 2 à t'acheter violette et jaune.
Ça fait penser quand j'étais à l'université puis qu'on faisait des 5 à 7. Moi, j'appelais ça des 5 à 14, là, tu sais. Fait que
ça fait penser dans une galaxie près de chez vous avec toutes les alarmes de toutes sortes de couleurs.
Ah oui,
c'est une génération différente. OK, donc, processus. Est-ce qu'on avait terminé le point sur l'évaluation?
Je pense que oui.
Oui, l'évaluation, je pense que c'est terminé.
Ouais.
Voulions-nous parler encore de la gestion du changement comme d'un processus non inclusif?
C'est si important.
Allons-y, lançons-nous.
Oui, bien, je vais ouvrir le bal, mais je pense que vous allez avoir des points encore plus intéressants à porter là-dessus. Mais tu sais, la gestion du changement, c'est tellement important dans les organisations, surtout aujourd'hui où les choses vont extrêmement vite. Fait que pour n'importe qui, le fait d'avoir une bonne gestion de changement, que ce soit un changement de culture ou un changement technologique ou un changement de procédure, processus dans l'organisation, ça permet à tout le monde de suivre la direction dans laquelle le bateau va. Puis chacune des personnes va pouvoir, dans ce processus-là de gestion de changement, adopter le changement à son rythme. Mais dans le cas des personnes neurodivergentes, la plupart des profils vont avoir encore plus besoin de cette gestion de changement-là, de part, par exemple, puis là, sans vouloir stéréotyper, je pense aux personnes autistes qui, dans la plupart des cas, ont besoin de routine puis n'aiment pas nécessairement le changement, mais le fait d'inclure ces personnes-là dans une gestion de changement qui prend en considération leurs besoins est essentiel, là.
Oui, ben c'est effectivement mon cas, en fait, de... j'aime pas le changement. Ben oui, j'aime le changement, j'aime l'imprévu, mais il faut que ça vienne de moi. Donc, arrivez pas à chambarder tout mon horaire. Je vais être flexible, mais je vais pas vous aimer. Mais c'est souvent ça, en fait. C'est, je vais pas être forcément résistante au changement. Si tu me convaincs du bien fondé du changement, je vais être d'accord. Mais changer pour changer, ça m'allume pas pendant tout. Là. Fait que c'est un aspect important d'expliquer le pourquoi du comment, puis de donner les bonnes raisons. Puis, à ce moment-là, ça va être plus facile d'accepter le changement puis d'en faire partie. Là.
C'est ça, puis c'est encore une fois un peu le principe du canari dans la mine, dans le sens qu'une gestion de changement qui est mal faite va impacter tout le monde, c'est juste que la personne neurodivergente pourrait avoir juste des plus grandes difficultés, puis se sentir encore plus écartée, dans le fond, de la direction dans laquelle le bateau va. Puis quand on fait de la gestion de changement, bien, on va faire l'évaluation, toute l'analyse des parties prenantes, puis l'analyse des impacts, bien, je me rends compte en même temps que je vous parle là que, tu sais, ça fait pas partie des parties prenantes que d'avoir... Les personnes neurodivergentes parce qu'on n'en parle pas. Mais ça serait un aspect tellement intéressant de dire, bon, ben tu sais, si je sais que j'ai des personnes neurodivergentes dans mon équipe ou si je ne sais pas, puis je prends pour acquis qu'il y en a parce que ça reste que c'est environ 20% de la population, comment est-ce que je peux les inclure dans mon analyse d'impact puis mon analyse des parties prenantes? Puis qu'est-ce que je peux mettre en place pour les accompagner dans ce changement-là, quitte à les utiliser comme des champions, tu sais? Je me dis, la personne TDAH qui est ultra active puis qui aime beaucoup parler puis qui aime beaucoup participer puis que, tu sais, ça peut être un excellent champion dans ton changement, là.
Oui, mais c'est même pas d'inclure les neurodivergents, c'est d'inclure tout le monde, c'est d'inclure les employés. Je pense que c'est un principe de base en gestion du changement que d'inclure tous les intervenants puis tout le monde. Parce que, un, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a un aspect puis un point de vue qui est différent. Et a fortiori, les personnes neurodivergentes. Puis, c'est juste le changement est mieux accepté quand on inclut les gens qui vont le subir ensuite. Donc, c'est même pas un principe qui est spécifique aux neurodivergents. C'est inclure tout le monde.
J'aime comment, dans le verbatim de Solène, le changement, on le subit.
Ben, oui, je le vis comme ça.
Non, mais c'est important, le vocabulaire. On l'a dit, on a un amour des mots, puis moi, ça m'a comme juste marqué, c'est la charge symbolique derrière ce mot-là par rapport au changement.
Ben, en fait, c'est que je me basais beaucoup sur mes expériences en gestion de changement. Tu sais, j'étais aussi dans le réseau de la santé, puis on s'entend-tu que les fusions, je les ai subies plus qu'autre chose. Puis c'est ça qui m'a shapé comme humaine, là, c'est sûr.
C'est ça. Puis il y a des changements qui sont plus difficiles que d'autres, puis il y a des changements qui sont mal navigués, puis il y a des... Tu sais, moi, personnellement, j'adore le changement. Si ça change pas, tu viens de me perdre, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand je parle d'analyse des parties prenantes puis d'inclure la neurodiversité, c'est là que je pense que ça devient intéressant de voir tous les différents profils, puis qui sait qui peut être un champion aussi, là.
Mais c'est ça le pire. Le pire, c'est que moi aussi, j'adore le changement. Si c'est toujours la routine, la même routine, puis le fait qu'on fait toujours la même chose, je vais m'ennuyer, mais à mort. Donc, ça peut être aussi super pertinent pour moi aussi. C'est juste la façon dont c'est fait que des fois, c'est un peu perturbant.
Oui, c'est ça. Puis il y a une nuance entre les nouveaux défis puis le changement. Moi, personnellement, je vois très bien le changement. C'est comme tout le temps les nouveaux projets, tout le temps de la nouvelle stimulation. C'est le fun! J'aime ça!
Fait que pour la gestion de changement, si je fais un petit mini recap sur la situation, c'est juste de faire une bonne gestion de changement puis s'assurer qu'on prend en considération aussi peut-être des profils qui auraient une difficulté supplémentaire à assimiler ou à comprendre justement la direction que ce changement-là veut prendre. Puis si la personne ne comprend pas, mais c'est clair qu'elle va avoir plus de résistance.
Oui, mais en fait, c'est carrément notre prochain sujet, finalement, c'est la communication.
Oui.
C'est une gestion de changement doit être bien communiquée.
Ben oui.
Puis, ben, justement, la communication est hyper importante avec les neurodivergents. Je pense à, par exemple, moi, si tu me donnes pas tes instructions par écrit, je vais parfois les oublier, je vais mal les comprendre. C'est beaucoup plus facile par écrit, je fonctionne par écrit. C'est un des aspects qu'on peut souvent utiliser avec les neurodivergents, mais de répéter, de résumer nos instructions par écrit, en plus de les dire verbalement, je pense que c'est un moyen, un, d'appuyer notre point, puis de deux, le clarifier, qu'il y a une trace écrite, qu'on puisse revenir, que ce soit clair, qu'on s'assure. Valider aussi la compréhension de ce qu'on a dit est extrêmement important. Donc, de valider qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de dire, puis ensuite corriger le tir si on en a besoin. Il y a plein de stratégies comme ça à mettre en place.
C'est ça, c'est cette espèce de trilogie du changement qui est la communication, la gestion de changement, puis la formation. Puis, tu sais, ça revient à la même chose avec la formation. Oui. Quand tu choisis ton mode de communication en fonction de ce que tu veux communiquer, bien, la communication, c'est la même chose. Tu sais, est-ce que tu as besoin d'avoir les communications écrites, des courriels, mais de t'assurer au moins que c'est efficace la façon dont c'est communiqué, puis que le changement n'est pas fait dans les corridors.
Oui, exactement. Moi, excusez, je suis là, je vous écoute, je suis juste fascinée, puis j'en pense à plein de cours là, que j'ai eu en gestion du changement, puis tout ce que ça avait suscité en moi, là, je pense à plein d'affaires, puis j'ai le goût de revenir sur la communication, puis on parle de l'écrit, puis moi, j'ai anecdote, par changement, j'ai réalisé l'importance de l'écrit en étant en télétravail, parce qu'en télétravail, je me suis mise spontanément, sans faire ce choix-là consciemment, là, mais à tout écrire ce que je faisais en visio, là, dans le fond, pendant mes réunions. Puis c'était facile, je pouvais le faire en même temps, je me laissais des traces de tout, puis je pouvais tout le temps m'y référer. Bon, c'est pas simple, parce que des fois, je pars sur une side quest au milieu de ma phrase, ou des fois, je décide de mettre deux mots en un seul parce que j'oublie des syllabes. Mais dans tous les cas, je pouvais vraiment m'y référer. Puis depuis que je suis revenue en présentiel, parce qu'on se rappelle, on enregistre en contexte de pandémie, puis un retour au travail, j'ai réalisé que ça me manquait beaucoup, parce que là, je me suis mis à essayer de prendre des notes manuscrites. Un, mon geste graphomoteur a perdu beaucoup, beaucoup de son charisme parce que j'ai pas écrit à la main depuis vraiment longtemps. Mais deux, c'est bien plus désorganisé et tu peux pas faire CTRL-F sur tes notes papier, OK? Donc, ça m'aide vraiment beaucoup la communication écrite et j'apprécie beaucoup les gens qui m'envoient un courriel après m'avoir demandé quelque chose verbalement.
Oui.
On parle d'écrit puis de verbal, mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi le visuel. Ça peut être, il y a beaucoup d'autistes, par exemple, qui vont fonctionner avec des pictogrammes. Donc, mm-hmm. Qu'on pense seulement à comment indiquer une toilette, mais ça va souvent être le pictogramme. Puis c'est un moyen de communiquer. Bon, là, je parle de l'exemple des toilettes, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quelle tâche. Il faut voir comment est-ce que la personne aime communiquer. Et puis, ça peut être d'une de ces trois façons-là ou plusieurs même.
Oui, puis là, je fais un lien avec le dernier épisode où j'avais essayé de patiner un peu sur les indicateurs visuels dans l'environnement, mais mm-hmm. entre autres, justement, tu sais, d'avoir un indicateur d'une transition. Moi, je me souviens, je travaillais au scolaire, puis ça aidait beaucoup certains enfants de voir une transition écrite dans le corridor, de se rappeler qu'il y a un moment de dans la classe, on est dans une certaine attitude, excusez.
J'ai bu comme un enfant de 5 ans, j'ai besoin de 6 pick-up pour mon café.
Je me suis amusée de Mélissa qui se fait attaquer sournoisement par son café, là, je tiens à le dire. Là. Et ça, pour dire, c'est un rappel de la transition que ben, dans le corridor, on va avoir une autre attitude parce qu'on ne veut pas déranger les autres classes, par exemple, mais que le rappel soit visuel, pas juste verbal, et l'impression que le prof là, te fait des gros chut méchants et sévères, là, tu sais, d'avoir un petit rappel ou des rappels aussi écrits de rétroaction dans l'environnement de j'espère que t'as une bonne journée. Ça fait du bien au moral quand tu les croises.
Oui.
Ah, mon Dieu, je fais encore un lien. Je m'excuse. Il y a un nouveau indicateur de vitesse sur ma route pour rentrer chez nous, puis il me met un bonhomme sourire quand je roule à la bonne vitesse, puis j'aime ça.
C'est renforcement positif.
Tu vois, un autre exemple de la communication inclusive. Solène, excuse-moi, je t'interromps depuis tantôt. En fait, t'essayes de parler, puis je ne te laisse pas la place.
Ben non, en fait, t'as conclu très bien ce que je voulais dire. Fait que c'était juste ce point-là que, dans le fond, toi, un petit bonhomme sourire peut rendre la vie tellement plus simple et joyeuse. Puis en fait, c'est plus rapide à lire, on s'entend, là, c'est plus rapide à lire un bonhomme sourire que « bravo, vous roulez à la bonne vitesse » ou enfin, je ne sais trop qu'est-ce qu'ils mettent comme message ces jours-ci. Mais ça peut aider la communication en ce sens que c'est plus rapide et efficace. Et c'est aussi plus facile, on parle d'inclusion, mais oui, c'est pour la neurodivergence, mais également pour, par exemple, les personnes qui ne parlent mal français ou anglais, c'est plus universel d'avoir une image qui va permettre de communiquer, donc ça va aider également vos immigrants, par exemple.
Exact.
Oui, puis la communication, c'est de dire aussi que, tu sais, en bout de ligne, je reviens au fait que si c'est bien fait, ça va rejoindre tout le monde, puis il y a des principes en communication. Tu sais, par exemple, si tu as des nouvelles procédures à communiquer, bien, il y a une façon d'écrire une procédure, là. Fais pas une espèce de roman sur comment faire quelque chose, là. Tu sais, divise ça en étapes, puis commence avec un verbe à l'infinitif, puis finis ta phrase après une action, là, tu sais.
C'est ça. Puis moi, si je dois amener un point, là, la communication informelle, là, autour de la machine à café ou ici dans le corridor, là, mettons que c'est pas la stratégie la plus efficace dans le monde. Elle est riche et importante, mais elle n'est pas toujours suffisante.
Non, c'est pour ça que je disais tantôt, ouais. Faites pas votre changement dans le corridor, là.
Oui, puis ben, sans compter que les personnes autistes, par exemple, n'ont pas accès à ce genre de... Parce que j'irai pas à la machine à café. Ben oui, parce que je suis une caféinomane, mais je m'attarderai pas à la machine à café pour jaser avec mon voisin.
Exactement. Puis si tu me glisses une consigne ou une demande entre m'ayant parlé de la météo puis ta fin de semaine, c'est ça. Ça s'est perdu. C'est resté dans ta piscine, dans mon imaginaire.
Surtout que je veux dire, les conversations informelles comme ça, le small talk, on va se mettre en mode small talk puis on va écouter à moitié parce qu'on s'entend-tu que c'est pas notre force non plus, là?
C'est ça. Mélissa?
Non, mais je veux dire, tu sais, à quel point, moi, je fais des liens partout, hein, tu sais, puis si tu as justement un changement, puis que tu fais ça à la machine à café, que tu passes des consignes, puis que là, la personne comprend mal les consignes qui sont en lien avec le changement, puis là, tu fais son évaluation de la performance, puis sa formation était croche, ça se peut qu'il soit pas très performant, puis qu'on n'atteigne pas les objectifs. Fait que, tu sais, tout est interrelié. Moi, je vois des liens partout.
Mais c'est vrai, c'est tellement vrai et important ce que tu dis.
Mais on parle de communication comme ça, mais la communication interne passe beaucoup aussi par le web, surtout de nos jours, là, tu sais, l'intranet, puis donc il faut être inclusif également de ce point de vue-là. Mais ça, tu as beaucoup travaillé là-dessus, me semble.
Ouais, ben oui, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, puis où je travaillais avant, honnêtement, là, l'intranet qu'on avait, là, c'était un bijou d'intranet, là, je vous jure, là, les filles, là, n'importe qui baverait à voir ça, là, c'était wow. Magnifique. On avait toute la méthodologie ben, pour de vrai, là, c'est vraiment un des points de vente que j'avais quand je faisais du recrutement, de dire la richesse de l'intranet qu'on avait. Fait que, tu sais, toute la méthodologie, elle était documentée. Tout était accessible facilement, tout avait été pensé, mais tu sais, on était coordonnés, bien chaussés, dans le sens que c'est ça qu'on faisait aussi pour les clients. Mais de se dire que quelqu'un qui arrive puis qui cherche une information est capable de la trouver facilement au moment où il en a besoin, il va faire toute la différence pour n'importe qui. Puis surtout pour quelqu'un de neurodivergent, parce que des fois, justement, tu sais, tu peux recevoir une consigne verbale, mais si tu sais qu'il y a une plateforme en arrière où la communication, elle est bien catégorisée puis cataloguée, tu n'auras pas besoin de stresser à tout te rappeler parce que tu sais que c'est là, puis que tu as ton filet de sécurité là, en termes de documentation interne.
Exact.
Ça permet de gérer la charge mentale, autrement dit aussi. Tu sais, si tu as ta charge mentale d'essayer de tout te rappeler, tu ne peux pas être efficace à faire de la création puis de l'innovation puis faire avancer tes trucs si tu es juste stressé à rien oublier, là. Puis à faire des erreurs puis à te faire taper ses doigts parce que ça fait des erreurs, tu sais.
Est-ce qu'on conclut là-dessus pour cette fois-ci?
Mais oui, on conclut là-dessus parce que ça va rapper justement sur... on a finalisé nos processus, on a parlé de la communication. Ouais. Et c'est ce qui me donne espoir qu'il nous restera un épisode sur... je dis ça. Non, j'arrête de m'engager.
Peut-être deux.
Ouais, peut-être deux.
Parce que là, qu'est-ce qui reste là, dans le bucket? On voulait parler de respecter les besoins des personnes. Fait que ça va encore en lien avec le filet de sécurité psychologique. Puis, tous les types d'outils qu'on peut mettre en place. Fait que, tu sais, quand on fait l'évaluation, par exemple, du profil de l'équipe, puis peut-être des profils de neurodiversité, bien, qu'est-ce qui peut être mis en place en termes d'outils logiciels, en termes d'outils physiques aussi pour les aider? Puis, on voulait terminer aussi avec toute la notion d'accompagnement. Fait que, je pense qu'on en a pour un bon deux autres épisodes, là.
C'est parfait. Plus de temps avec vous. Ça me va.
Oui. Mais de toute façon, moi, quand je regarde toute la liste de notre bucket list du balado, là, on en a des choses à dire. Fait que si vous aimez ça, nous écouter, là, on n'en manque pas de sujets. Puis n'hésitez jamais à nous faire part de sujets qui vous intéressent. Si des fois, on parle de choses puis que c'est pas nécessairement clair ou que ça mériterait un approfondissement, t'sais, on est à l'écoute de tous vos besoins puis de vos questions puis de la façon dont vous voulez enrichir notre contenu. Parce que notre contenu, c'est vous, c'est l'auditoire aussi, là.
Oui, puis on est 3 neurodivergentes parmi, parmi toute la population. Puis on l'a dit souvent, on n'est jamais bonne pour la 10, cette expression-là, là, mais il y a autant de neurodivergences que de neurodivergents, là, quelque chose comme ça. Là. Bref, ça pour
on
dire que...
On est tous des flocons de neige.
C'est juste que c'est... Ouais, c'est pas l'expression la plus positive, ça, en anglais.
Mais non, je sais.
Mais tout ça pour dire qu'on veut vous entendre, on veut vous lire parce que ça contribue à enrichir notre vision, notre lecture, nos discussions que d'avoir d'autres vécus.
Exactement. Fait que là-dessus, on vous dit merci. On vous dit à la semaine prochaine avec plein d'autres choses passionnantes à vous parler.
Bye bye! À la
semaine prochaine!
Au revoir!
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous aviez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.